se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un camoué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
C'est une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Et cette émission tente aussi de prendre le temps de ne pas aller trop vite avec Rémi Quincey et Pierrick Monsigny à la technique et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza qui je souhaite un très bon rétablissement parce qu'il y a eu un petit choc, lui était piéton, il y avait une voiture qu'il n'a pas vue. Et bien c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, deux petites informations. Incroyable, il pilote un grand avion lent. L'avion du futur a atterri mardi au Salon du Bourget. 16 heures plus tôt, cette libellule géante, dont les ailes sont recouvertes de 12 000 cellules photovoltaïques, décollait de Bruxelles. Alors, il est large comme un Airbus, mais pas plus lourd qu'une voiture. L'exploit fut presque salué à sa juste valeur, mais j'ai quand même entendu sur différentes télés, et même sur ma radio préférée, des commentaires du genre « Bruxelles-Paris, en 16 heures, on ferait mieux de venir en mobylette ». Bon. Le vieux monde et la machine à relayer du négatif sont donc toujours en marche. Être en capacité d'émerveillement n'est pas donné à tout le monde, même si cet avion a eu aussi recours à de l'électricité classique. Mais c'est pas grave. L'avion solaire est lent, un slow plane silencieux, et les collègues obligatoirement performants se gaussent de l'avion lent, revenant qu'ils sont des vrombrissants du circuit du Mans, tweetant, iphonant, smsant le scoop au cœur des termitières, devançant l'info, créolant l'événement avant même qu'il se produisent, déjà vendus, emballés, consommés, jetés. L'avion lent, lui, pendant ce temps, fait la sieste, il étire ses ailes interminables au soleil, il attend son heure car elle viendra. Alors dans un registre de mobilité, certes très très différente, on est bien d'accord. Le facteur cheval, souvenez-vous, était un homme lent. Il rapportait tous les jours sa brouette remplie de cailloux, essuyant d'un revers de manche les quolibets et noms d'oiseaux dont les pauvres bougres arrosaient son passage. Et aujourd'hui, une région entière vit du rêve fou d'un palais idéal. Alors notre facteur qui plane, cet oiseau solaire, survolera l'Atlantique en 2013. L'équipe Solar Impulse du petit-fils du professeur Tournesol, enfin pardon, d'Auguste Piccard, qui avait servi de modèle, vous le savez, à Hergé, a fait donc atterrir le premier avion sans carburant de l'histoire. Un avion solaire dans la ville lumière, symbole d'une ère nouvelle. Ingéniosité revigorante qui donne envie d'espérer, même s'il y a encore un peu de boulot pour voir les esprits se décarboner. Et au menu donc de cette édition, Jean-Marie Pelt, ce sera dans quelques instants avec des considérations philosophico-végétales ou cela, et bien dans son jardin, comme on aime le faire en Lorraine de temps en temps. Deuxième volet, ce sera Florence Leray, qui est professeure de philo, qui est aussi journaliste environnementale, qui écrit un ouvrage au titre assez décapant, Le négationnisme du réchauffement climatique en question. On en parle avec elle, et puis enfin, ce sera Nathalie Fontrelle avec son actualité. Chanson, on y va, c'est parti. Bel après-midi à tous.
La pluie venait du nord, le vent passait sous ma porte. Je comptais vivre fort, et que le diable m'emporte.
J'allais à la fenêtre, enroulé dans un drap. Je secouais la tête, j'en écartais les bras.
J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi.
J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois que j'en voulais trop, j'ai même eu
ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais pas. Je restais enfermé. Ouais, pendant des jours, trop de chemins s'ouvraient, trop de questions en retour.
Je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire.
J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi.
J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois que j'en voulais trop, j'ai même eu ce que je ne voulais pas. 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 Ce que je ne voulais pas.
Chaque jour je me tenais prêt, je guettais l'heure et la page où les seaux s'ouvriraient, me laisseraient un passage.
L'espoir me faisait vivre, l'attente me rendait nerveux. Je trouvais dans les livres de quoi patienter un peu.
J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois que j'en voulais trop, j'ai même eu ce que je ne voulais pas. 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 Ce que je ne voulais pas.
Ils ont un petit peu moins, si vous voulez, l'accent suisse-allemand de Stéphane Escher. Mais c'est une très belle reprise. Hein. C'est un album France Inter. Florent Marchais et Gaëtan Roussel, c'était des hauts et des bas. Et là, maintenant, ça va être des hauts et des pas, car vous le sentez très bien. Où sommes-nous? Eh bien, nous sommes chez Jean-Marie Pelt, en Lorraine, sur son plateau lorrain. Et que va-t-il se passer? Oula, je ne sais pas. Ah, nous sommes accueillis par vos passereaux. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors on est dans votre jardin, on adore ça parce que là on est vraiment au printemps. Et face à nous, bah des céréales.
Premier plan du blé, deuxième plan du colza et déjà du colza en graines.
Et puis on voit aussi sur les mirabelliers, les futures pousses, où ça peut donner là. Hein.
C'est oui, il y en a beaucoup cette année, oui. Oui, c'est une année à fruits. On a passé vaillamment les saints de glace, oui. Sans dégâts particuliers. Donc ça sera une année à fruits.
Oui. Alors au loin toujours donc les fameux panaches blancs donc de Cattenom qui sont là. Bon, petite inquiétude actuellement parce qu'avec la sécheresse, les centrales nucléaires sont gourmandes en eau.
Oui, la centrale de Cattenom est en train de puiser dans l'étang de pierre percée dans les Vosges qu'on avait créé tout exprès pour lui faire une réserve en eau parce qu'en été le débit de la Moselle est très faible et ils sont déjà, alors que nous sommes quand même au printemps, en train de pomper dans cette réserve. Ah oui. Et si cette réserve baisse trop, alors il faudra arrêter les réacteurs. C'est une inquiétude que l'on a pour toutes les centrales nucléaires en cas de grande sécheresse.
Alors on voit aussi, puisque une idée en amène une autre, des hangars là au loin qui ont poussé il n'y a pas tellement longtemps. C'est quoi, il y a eu de la graine de hangar là à, je sais pas, 2-3 km à peu près.
Oui, c'est un extraordinaire hangar agricole.
Oui.
C'est le village à côté en effet. Il a poussé en 8 jours. J'ai vu ce hangar partir à une vitesse vertigineuse. J'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis il était avec un immense toit en pente. Alors j'ai tout d'un coup vu les panneaux solaires qui, oui, se sont mis sur le toit. Ben je me suis dit, dis donc, ils ont été efficaces. Ça a été d'une rapidité vertigineuse.
Mais il n'y a pas de bête dessous.
Je ne sais pas, je n'ai pas été voir, mais c'est ce qu'on appelle les fameux effets d'aubaine.
Voilà,
il paraît que ça rapporte de faire des hangars agricoles avec des panneaux dessus. Tout d'un coup, ça rapporte, et puis alors le gouvernement fait vite marche arrière et le hangar ne sert plus à rien. Oui, c'est drôle.
«
Alors, ce qui est toujours très bien, c'est que vraiment vous le souhaitiez, vous ne vouliez pas du tout.
De mur.
De mur.
Il n'y a pas de mur.
Clos, qui est une séparation entre le champ et votre jardin.
Voilà, on est tout à fait au bout du jardin et le champ est là à 2 mètres et je ne voulais pas de mur. Alors on me dit, pourquoi tu ne construis pas un mur autour de ta maison? Tu serais chez toi. Mais j'ai dit, mais je suis chez moi. Les champs sont ceux de notre fermier voisin avec qui nous sommes très amis et dont nous consommons les productions animales, les oui. lapins, les poules, les œufs. Et c'est très bien d'être à côté d'un fermier, parce que si tout va mal, vous aurez quand même des poules.
C'est ça. Donc l'autonomie alimentaire de Jean-Marie Pelt est presque assurée, d'autant qu'il y a le potager à côté.
Ah ben, il y a le petit potager, là, vous voyez. Il n'est pas très grand, hein.
Non, mais...
Mais il est là, il est là.
Il est là.
On nous a donné beaucoup de radis, là.
Puis vous êtes sur les pommiers, les pruniers, les mirabelliers et les noyers. Vous
avez et le coin.
Et, ah, exact. Et Sarah, où elle est, là, parce qu'elle est...
Sarah n'est pas sortie.
Si.
Elle nous court après,
si,
là.
Si, elle est pas loin.
Ah.
Sarah.
Pépette, viens. Parce qu'elle viens faire de la radio, Pépette. Pépette aime bien faire de la radio.
Il y a nos pieds, une fourmilière.
Oui.
Là, on a l'impression que c'est un désordre. En fait, il y a un agencement incroyable.
Oui, c'est des systèmes très intelligents. Oui. Chaque fourmi a un peu moins d'intelligence que nous, mais l'ensemble de la fourmilière est extrêmement intelligent. Ce sont des intelligences collectives. Ce à quoi nous réfléchissons d'ailleurs aussi dans la société.
Qu'est-ce que vous voyez quand même évoluer au cours des différentes conférences que vous faites, que nous avons aussi, mais quel est votre ressenti, je dirais, actuellement?
Beaucoup de gens sont perdus. Alors c'est vrai que le pouvoir d'achat me semble être une question qui se pose avec acuité,
ah oui.
parce que les prix augmentent et les salaires n'augmentent pas très vite, alors il y a ça. Et puis alors c'est sur le plan moral aussi, parce que je fais une conférence qui s'appelle « Nature et spiritualité », où j'explique comment les textes sacrés des grandes religions ont proposé pour les rapports homme-nature, en gros, les mêmes valeurs que l'écologie. Les femmes qui sont plus sensibles et à la spiritualité et à l'écologie sont extrêmement preneuses de ce type de conférences que j'essaie de faire le plus possible. Mais il faut que je change le titre, parce que si je dis spiritualité, la moitié des municipalités sont prises d'épouvante.
Bah oui,
et ils disent que c'est une secte, parce qu'en France, le mot spiritualité veut dire secte. Ce qui est tout à fait étrange, mais enfin, c'est comme ça.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Alors Jean-Marie, on est face à vos arbres et ça, vous y tenez beaucoup. Hein,
ah, cette... La Pépette est revenue.
Ah ben voilà. Alors en fait, elle a deux noms. Il y a Pépette et Sarah.
Oui, mais Sarah, c'est Madame Abraham. Je trouve que ça avait un côté solennel. Je devais alors la respecter. Je ne pouvais plus lui faire de câlin parce que je dois respecter Madame Abraham. Donc on l'a nommée Pépette.
Oui.
Pépette, c'est beaucoup plus intime.
T'as un griffon.
Poivre et sel.
Poivre et sel.
Voilà. Oui, oui. Très gentil griffon.
Qui est à nos pieds.
Oui.
Il vous écoute, là.
Oui, c'est ça. Il écoute, oui.
Mais alors, elle a envie de savoir des choses sur les arbres et votre passion, quand même, pour les arbres aussi.
Ben, je la forme. Mais je dois dire qu'elle fait des progrès limités. Oui. Elle a appris un mot nouveau il n'y a pas longtemps, c'est viens. Là, voilà qui part.
C'est-à-dire que vous ne parliez pas des arbres. Elle n'a pas eu sa leçon, donc voilà.
C'est très important, les arbres en ville. Parce qu'on fait beaucoup d'études maintenant. C'est bizarrement aux États-Unis en particulier. Sur l'effet des arbres en ville, et on montre que les arbres diminuent la pollution de l'air urbain, diminuent la pollution d'oxyde de carbone qui vient des voitures, parce que les arbres dégagent de l'oxygène par photosynthèse, cet oxygène oxyde l'oxyde de carbone et donne du gaz carbonique. Et puis, ils ont aussi un effet dépolluant sur l'anhydride sulfureux, sur les oxydes d'azote, et tout ça, on ne le savait pas il y a encore 5 ans. Hein. C'est des choses nouvelles qu'on découvre, donc il est extrêmement important d'avoir des arbres en ville, et des grands arbres en ville, car plus les arbres sont grands, plus ils ont un feuillage dense, et plus l'efficacité dépolluante est grande aussi.
Bon, vous n'avez pas été écouté à Metz, parce que là j'ai vu qu'il y avait des tilleuls qui avaient dégagé je ne sais plus quelle place. Du côté de Nîmes aussi, il y a eu une levée de boucliers, parce que pour faire passer, je ne sais plus si c'était un tramway ou un équivalent, hop, on dégage effectivement les vieux arbres.
Alors il y a cette tendance qui est navrante à dire « ils sont malades ». Je dis « ont quoi ?» Oh, ils ont expliqué des choses compliquées. J'ai dit « on les garde ». Car lorsque nous sommes malades, on ne nous tue pas. Et il faut développer cette culture du respect des arbres.
Marie, on est face à votre paysage, la forêt de Saint-Hubert est au fond. Et quelles que soient les saisons, vous vous en lassez pas, hein ?
Non, non. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance à trouver cette maison. Elle a une particularité, cette maison que vous avez remarqué, il n'y a rien de valeur dedans. Il n'y a plus rien qui vaut 100 sous. Donc nous sommes à l'abri des voleurs. Si les voleurs viennent, ils ne voleront rien, il n'y a rien à voler.
Il y aura peut-être un peu vos livres. Voilà.
Oui, mais les voleurs ne lisent pas les livres.
Non.
Alors Jean-Marie, je sais que vous sortez le soir pour regarder les étoiles, mais au-delà de cela, ça vous arrive de sortir ?
Non, parce que la présidentielle nous offre un tel spectacle au quotidien qu'on n'a plus besoin de sortir.
Oui.
Et je pense, dans le monde entier, tous les télescopes sont braqués sur la France parce que 2012 est l'année d'une apocalypse, d'un choc frontal. La droite et la gauche vont se tamponner. Ça va dégager des quantités énormes d'énergie. Nous allons suivre ça avec passion. C'est extrêmement important pour l'avenir de la planète. Et nous allons, bons Français que nous sommes, être emportés par cet immense et grandiose feuilleton qu'on suit de tout près, de la Patagonie aux îles Samoa, parce que tout le monde a bien compris que l'avenir du cosmos, pas de la planète, du cosmos, va se passer en France en 2012.
Oui.
Et que finalement, c'était ça qu'annonçaient les Mayas, quand ils ont dit que ça serait la fin du monde en 2012. Eh bien non, et je vais rassurer maintenant nos auditeurs, je vais leur dire quelque chose qui va leur faire immensément plaisir, ça finit bien. Nous aurons un président de la République.
Oui.
Non, on ne sait pas jouer collectif, alors que nous avons tellement besoin de solidarité.
Jean-Marie, pour tracer un avenir aux gens qui nous écoutent, enfin en tout cas des bribes d'avenir, qu'est-ce qui vous fait un peu quand même espérer aujourd'hui ?
Moi, j'aimerais bien qu'on aille vers l'économie sociale et solidaire, où il n'y ait plus d'actionnaires, où il n'y ait plus de dividendes, où il n'y ait plus de revenus sur l'investissement, où on parle d'autres choses, où il y ait des sociétaires qui sont solidaires entre eux, où l'entreprise est entre leurs mains, où chacun a une voix, il est égal aux autres, où on fait les choses ensemble, où règne un esprit de coopération. Cette fameuse solidarité, tout ça, ça va aller dans ce sens-là, parce que chacun se sent un acteur et pas complètement marginalisé parce qu'il est sans argent et sans pouvoir. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on aille de plus en plus, et même je dirais de plus en plus vite dans cette direction, si nous ne voulons pas que tout explose un jour par les excès d'un capitalisme que je trouve vraiment très perverti et très dévoyé.
Qu'est-ce qu'on se souhaite, Jean-Marie, dans votre jardin ?
On souhaite que ce jardin puisse rester encore longtemps notre jardin. Pour tous ceux qui y viennent, ils sont nombreux. Il y a de l'harmonie ici.
Il y a de l'harmonie, voilà.
Vous le sentez, hein ? Ouais. C'est un lieu très harmonieux.
Je peux déjà dire que peut-être que le prochain livre parlera un peu des jardins. Merci beaucoup, cher Jean-Marie.
Oui, au revoir Denis, au revoir à tous.
Théo de mon amour, Denis Chessy.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Bye.
abominable. Heureusement, tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue.
Ben c'est une très bonne nouvelle, parce que si vous avez de la gadoue, ça veut dire qu'il y a de l'eau, donc il y a de la pluie. Donc vive la gadoue. Donc c'était Jeanne Birkin, évidemment. Vous êtes toujours sur France Inter. Ah, alors là, attention, parce que c'est pas du tout la croisière s'amuse. J'ai un livre entre les mains qui s'appelle, carrément, hein, Le négationnisme du réchauffement climatique en question. C'est aux éditions Goliath. C'est écrit par vous, donc Florence Leray. Alors vous êtes professeure de philo, réalisatrice de documentaires, en particulier sur l'architecture écologique. Et puis vous vous intéressez depuis très longtemps à ces problèmes écologiques et d'environnement et de réchauffement. Alors déjà, pourquoi ce titre ?
Alors ce livre, parce que en tant que professeur de philosophie, eh bien, à partir de l'année 2007, mes élèves ont commencé à remettre en question le réchauffement climatique. Et je leur ai posé la question. Ils m'ont tous cité Claude Allègre et un documentaire anglais en accès libre sur le web.
Mmh. Alors maintenant, je reviens quand même sur ce titre, parce que négationnisme, on sait bien que ce mot recouvre une réalité humaine qui est tout à fait douloureuse, donc qui s'applique à la négation du génocide. Donc c'est très fortement connoté. Vous gardez ce titre, pourquoi ?
Alors je tiens à ce titre parce que nous sommes bien ici, nous avons bien affaire ici à du négationnisme. Ce n'est pas du scepticisme, ce n'est pas du révisionnisme. C'est la négation de faits historiques et de faits scientifiques. Ici, c'est le cas avéré. Mmh. Donc, nous avons bien affaire actuellement à un réchauffement climatique en cours qui est d'origine anthropique, c'est-à-dire ce sont les activités industrielles humaines qui sont responsables de ce réchauffement climatique. Donc nier une telle réalité relève du négationnisme.
Bon, Florence Leray, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui ? On va faire un petit tour rapide de ce réchauffement climatique, parce que d'abord, les informations qu'on a eues tout à fait récemment en provenance du GIEC montrent que l'on est sur, on va dire, la pire, malheureusement, courbe du GIEC.
Absolument. Alors, on sait aujourd'hui, malheureusement, que si on freine dès aujourd'hui toutes les émissions de gaz à effet de serre, nous allons de toute façon, pour le 21e siècle, vers une augmentation de plus 1 degré des températures en moyenne pour la surface de la Terre.
Alors, 1 degré, ça, c'est déjà fait, on est pratiquement à 0,8.
Quasiment, hein, donc, absolument. Oui. Et malheureusement, effectivement, le GIEC a raison, hélas, nous nous dirigeons très probablement vers un scénario de plus 3 degrés, voire plus 4 degrés d'ici 2100. Et à ces températures, eh bien, nous sommes dans une situation pré-apocalyptique où les pôles fondent. Mmh. Nous aurons affaire aussi à une libération des hydrates de méthane dans les océans qui ont un pouvoir, donc de,
réchauffant.
Malheureusement, voilà. Je crois de 23 ou 25 fois supérieur au gaz carbonique. Et nous aurons des villes sous l'eau, oui, comme Londres, Bombay, Shanghai, New York ou encore Venise.
Chouette. Alors, ça déjà, on en avait un peu parlé. Maintenant, pourquoi nier le réchauffement ? Ça, c'est vraiment le cœur de votre ouvrage.
Alors, effectivement, j'ai distingué trois grandes raisons concernant cette négation du réchauffement climatique. La première, c'est Freud en 1924 qui en a parlé. Le premier, c'est la question du déni ou de la dissonance cognitive. C'est-à-dire que face à une réalité jugée comme trop angoissante, eh bien, on va nier, mm-hmm, ce qui dérange le moi.
Et alors, effectivement, enfin, il ne le disait pas forcément pour le réchauffement climatique. Hein.
Il ne le disait pas pour le réchauffement climatique à l'époque.
Non, mais enfin, devant, il avait inventé cela. Quoi.
Voilà, devant, ouais, toute réalité en fait, trop angoissante, eh bien, on va nier ces questions-là. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième, elle est idéologique. C'est, on va dire, une raison plutôt ultra-libérale, hein, c'est-à-dire qu'on croit à la technologie qui va sauver le monde, qui va nous tirer de ce mauvais pas climatique. Et surtout, on ne veut pas remettre en question, évidemment, son mode de vie. Et la troisième raison, elle relève de la cupidité. C'est-à-dire, certains se frottent les mains et se réjouissent en se disant « Eh bien, les températures augmentent, c'est parfait, ça va libérer des routes maritimes commerciales au pôle. »
Du Nord-Est, oui.
Voilà, au pôle.
En Arctique.
Et dans l'Arctique, absolument. Et on va pouvoir exploiter des centaines de millions de barils de pétrole, vive le réchauffement climatique.
Et la Sibérie pourrait être le nouveau Middle West aussi.
Et ainsi que vous avez raison, Denis, en Sibérie, il y a également le dégel du permafrost, oui, qui va permettre de cultiver des hectares de champs céréaliers. Mais c'est oublié, encore une fois, de dire que lorsque le permafrost dégèle, du méthane se libère et augmente ce problème d'effet de serre.
Alors Florence Leray, donc, qui sont les climato-sceptiques aujourd'hui ?
Alors les climato-sceptiques, les premiers sont américains, ce sont des lobbies, on les appelle dans le jargon journalistique américain le Carbon Club. Donc ce sont les industriels de l'automobile, du pétrole et du charbon. Et ils ont été financés par la plupart ExxonMobil. Un chiffre, entre 1998 et 2005, ExxonMobil a distribué près de 16 millions de dollars à 43 lobbies américains climato-sceptiques. Alors c'est pour vous dire l'importance, si vous voulez, de ces industriels qui ne ménagent pas leur peine, qui corrompent scientifiques et politiques et qui ont leurs entrées d'ailleurs au sein du Sénat américain. Alors je cite...
Il faut quand même dire aussi que par exemple, Shell a fait son mea culpa il n'y a pas tellement longtemps. Donc là aussi, même ExxonMobil commence à mettre un frein sur la désinformation.
Oui, alors d'un côté, oui. Et puis de l'autre, malheureusement, après le mea culpa officiel d'ExxonMobil, qui a reconnu qu'ils avaient corrompu des scientifiques et des politiques, eh bien ExxonMobil continue à organiser des colloques internationaux pour remettre en question cette grande supercherie, n'est-ce pas, qui est le réchauffement climatique.
Dans ces climato-sceptiques, Florence Leray, on a des scientifiques.
On a quelques scientifiques, effectivement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ces scientifiques sont des physiciens. Ce sont des physiciens qui ont travaillé eh bien, dans le cadre de la guerre froide, qui ont fait partie de l'entourage de Ronald Reagan et qui ont fait partie du programme Star Wars, la guerre des étoiles, lancé en 1983 par Ronald Reagan. Quel est ce programme Star Wars? C'était un programme en fait, de défense antimissile si les États-Unis étaient attaqués. Donc ces physiciens, c'est par exemple Fred Seitz, Fred Singer ou Philippe Cooney, qu'on appelle l'agent secret au service du pétrole, qui ont introduit d'ailleurs la Maison Blanche pour eh bien, promouvoir leur politique climato. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont ces lobbyistes que l'on retrouve au service du pétrole aujourd'hui, au service des cigarettiers et maintenant au service des climato-négationnistes. Et pourquoi? Parce que depuis qu'il n'y a plus la guerre froide, n'est-ce pas, contre la Russie soviétique, eh bien, les nouveaux ennemis à abattre sont les écolos, qui comparent à des pastèques, vous savez, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Marxiste, comme chacun le sait.
Et puis, si on s'intéresse à la France, nous avons...
Le climat, depuis 4 milliards d'années que la Terre existe, il a changé sans arrêt. Quand Éric le Rouge a découvert le Groenland, il l'a appelé Greenland, parce que c'était vert. Il faut arrêter cette histoire. Qu'il y ait un changement climatique, j'ai été un des premiers à le dire. Il y a un changement climatique. La cause de ce changement climatique, c'est une autre paire de manches.
Alors son livre, évidemment, s'est vendu très très bien, tant mieux pour lui. Donc c'est Claude Allègre.
Bien sûr, tout le monde l'a reconnu.
Et tout le monde, évidemment, tous les médias se sont dit, bah tiens, on invite Claude Allègre, on le prend comme pivot principal, et en face, on va lui mettre quelques opposants. Comme ça que ça fonctionne.
Alors moi, en tant que journaliste, je m'inscris en faux contre ce genre de procédé. Je trouve que c'est une faute déontologique extrêmement grave. C'est-à-dire que Claude Allègre n'est pas climatologue, c'est un géochimiste. Il n'a pas publié dans des revues scientifiques depuis très longtemps. Et je trouve qu'il relève de la responsabilité des journalistes de ne pas inviter ce genre de personnage.
Maintenant, donc, quelles sont les solutions? Alors peut-être qu'il y en a des mauvaises et qu'il y en a des bonnes. On ne va pas parler d'atténuation parce que ça, ce serait parfaitement malhonnête. On va parler d'adaptation.
Oui, je vais commencer tout d'abord par les mauvaises solutions, à mon sens. Je les mets dans les mêmes paniers. Ce sont les marchés de CO2, les OGM, les agrocarburants, les énergies renouvelables à très grande échelle. Et c'est bien pour ça que...
Attendez, quand vous appelez énergie renouvelable à très grande échelle, que l'on comprenne.
Les grandes exploitations, en fait. Les grandes exploitations d'énergie renouvelable qui n'ont pour but, finalement, que d'entrer dans ce schéma de croissance et de productivisme, c'est-à-dire dans un but de rentabilité. En revanche, je suis bien évidemment pour les énergies renouvelables. renouvelables, mais des petites installations locales. Et je crois que le mot-clé, finalement, des solutions qui vont nous permettre de sortir, en tout cas de nous adapter à ce mauvais pas climatique, c'est le mot local. Alors moi, je propose dans ce livre, en dernière partie, eh bien, d'agriculture biologique locale. Vous savez, les maraîchers, il y a certaines villes que l'on appelle les villes lentes, qui réinstallent déjà une zone maraîchère autour, en ceinture, en périphérie des villes, qui installent les jeunes agriculteurs biologiques sur ces zones-là. Ça peut être une solution pour raccourcir, aller vers des circuits courts. Je propose également des monnaies régionales qui pourraient permettre d'instaurer, pourquoi pas, alors c'est peut-être pour certains utopistes, mais un revenu universel d'existence, un tiers en salaire, évidemment. Un tiers en monnaie régionale fondante. C'est Patrick Vivray le premier qui avait parlé de ces monnaies fondantes. C'est-à-dire qu'ils ne permettent pas une capitalisation. Marx avait bien écrit au 19e siècle, qui peut entraîner malheureusement un système donc, de rentabilité. Et un tiers en services gratuits. Aujourd'hui, certaines villes le font, comme la ville de Châteauroux, il y a déjà une dizaine d'années, proposer aux
transports.
Citoyens... Voilà, absolument. Ouais. Proposer donc des transports gratuits, comme les bus, ça fonctionne bien à Châteauroux. Ou encore la communauté d'agglomération des Lacs d'Essonne l'a fait, proposer de l'eau gratuite, en tout cas un minimum vital pour que les citoyens puissent en sortir.
Alors évidemment, dans une société marchande, certains vont vous dire, mais elle rêve absolument cette petite. Revenez quand même sur les villes lentes. Qu'est-ce que c'est le principe des villes lentes?
Alors les villes lentes, en fait, c'est le mouvement Slow City qui est issu du mouvement Slow Food qui est né en fait en Italie. Ce sont des maires de toutes petites villes italiennes qui, vous savez, en Italie, c'est la Bella Vita, la oui. belle vie, on aime bien vivre. Donc ils sont partis de cette éducation au goût pour une agriculture eh bien, locale, de saison. Ils ont créé ce mouvement des villes lentes. Alors c'est le philosophe grec Péripatos qui le disait déjà, on ne pense bien qu'au rythme de ses pas.
Oui.
Donc la ville lente, en quelques lignes, très rapidement, c'est supprimer la voiture, évidemment. On sait que 32% de l'espace urbain est occupé par les voitures aujourd'hui. Donc c'est supprimer au maximum les voitures. C'est réinstaller des petits commerçants dans le centre-ville, des petits artisanats locaux, de l'agriculture biologique autour des villes. Et c'est surtout réduire la taille des villes à 60 000 habitants. En effet, au-delà de 60 000 habitants, demandez à n'importe quel urbaniste un peu sensible à ces questions, on ne peut plus parler de lenteur et de ville lente. C'est Paul Virilio, cet architecte et cet urbaniste, ce philosophe, qui a bien expliqué comment, dans une mégalopole, eh bien, lorsque la vitesse s'accroît, lorsque les prothèses technologiques d'une ville s'accroissent, c'est toujours au détriment des plus démunis.
Florence Leray, dans cet ouvrage, le cœur de l'affaire, c'est que souvent, comme on le dit, mais on ne croit pas ce que l'on sait. C'est-à-dire que ce qui se passe dépasse véritablement l'imagination. En même temps, avec tout le tableau que vous avez dressé, on n'a pas envie d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, sans forcément tomber dans le carpe diem, après moi le déluge, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener donc, les gens qui, même avec la bonne volonté, ont une prise de conscience de cette affaire-là, à essayer de changer leur comportement ? Parce que c'est quand même ça qui est derrière.
Alors, merci pour cette question. Ça me permet de revenir justement sur les différentes formes de déni. Le déni de responsabilité, par exemple. Je ne suis pas la principale cause du problème. Il y a aussi la condamnation de l'interlocuteur. Vous n'avez pas le droit de remettre en question mon comportement. Il y a le rejet du blâme. Je n'ai rien fait de mal. Il y a l'ignorance. Mais je ne connais pas les conséquences de mes actes. Il y a le confort. Cela m'est trop difficile de changer. Et enfin, il y a les contraintes inventées. Il y a trop d'obstacles. Alors, nous nous reconnaissons tous, finalement, dans ces différentes formes de déni. Et je crois qu'il faut avoir le courage eh bien, de s'informer. C'est un devoir de citoyen. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Et je crois que chacun peut faire, à son petit niveau, ce qu'il peut. En reprenant espoir, finalement, et en continuant à se battre, debout. Enfin, moi, c'est ce qui donne sens à ma vie, c'est me battre jusqu'à mon dernier souffle pour œuvrer, finalement, à une civilisation meilleure.
Bon, comme vous êtes encore jeune, vous avez encore beaucoup de souffle, et tant mieux. Donc, ça s'appelle Le négationnisme des réchauffements climatiques en question. Donc, c'est un ouvrage qui sera tout à fait mis en débat, c'est clair. Florence Leray, c'est aux éditions Goliath. Merci à vous.
Merci,
Denis. Et vous allez rentrer en train, bien sûr.
Absolument.
Ouais, bien sûr. Allez, après Jean-Marie Pelt et cet ouvrage, le troisième volet dans quelques instants, ce sera l'actualité que Thalie Fontrel qui se prépare.
Dark hair, midnight eyes. She's looking like it's 1995. And while my steps are made of stone, hers are light and air and sky. She's looking for something. She's spinning and circling.
choisie par Muriel Pérez sur France Inter. Elle est toute jeune. Ce qui n'empêche pas le talent, c'est Aléla, Diane, désir et autres formes de désir. Écoutez.
Les oiseaux dans la charmille.
Oui, voilà, c'est joli, mais là, l'actualité de l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Mais oui, tout le monde nous envie vraiment ce jingle, rien que pour vous. Bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Donc c'est bien notre actualité. On va commencer parce que ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, et là, ça y est, c'est parti. La première étude épidémiologique sur l'impact de l'environnement sur la santé. Ouf, ça commence.
Oui, 20 000 enfants, c'est pas rien, hein, vont être suivis de leur naissance à leur 20e anniversaire. C'est l'étude ELF pour étude longitudinale française depuis l'enfance. ELF, ouais, ELF, c'est très très joli. Les explications de la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Quand j'étais enceinte de mon premier enfant en 2005, la cohorte, je le croyais, était sur le point d'être lancée. J'y poussais beaucoup et je me disais, c'est dommage, à quelques mois près, le mien aurait été dedans. Et puis j'en ai eu un deuxième depuis. Et je suis heureuse enfin aujourd'hui que le projet aboutisse, même si c'est vrai qu'il a mis des années à aboutir. On l'a fait beaucoup évoluer, il faut dire, pour y intégrer des objectifs environnementaux, des questionnements environnementaux qui aujourd'hui sont très présents dans la société, dans les questions que posent les mamans aux médecins et auxquelles en fait ils n'arrivent pas à répondre. Genre, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le risque d'asthme d'habiter en ville ou d'habiter à la campagne? Est-ce que c'est mieux de sortir mon bébé le matin ou l'après-midi si je suis dans une zone qui est considérée comme polluée? Est-ce que vraiment la peinture de la chambre, de l'habiller avec des cotons bio et de ça va changer quelque chose pour lui? Est-ce que les cosmétiques que je mets moi sur ma peau, ça peut changer quelque chose pour lui? Bon, ce sont des questions qui sont aujourd'hui très présentes et auxquelles les médecins ne peuvent pas répondre. Du coup, d'ailleurs, c'est des questions qui se développent sur Internet. Il y a des forums, on en parle, on en discute. À un moment, il faut trouver des réponses et la cohorte ELF est là pour ça.
Alors, reconnaissons-le, elle s'est quand même battue pendant pas mal de temps sur ce sujet parce que la majorité n'était pas vraiment sensibilisée à ce thème-là. Et la première vague de recrutement a eu lieu, Nathalie.
2800 bébés ont été recrutés et certains ont été invités cette semaine au ministère de l'écologie.
Oui.
C'est le cas de Juliette qui n'a pas encore 3 mois et de sa maman Isabelle. Alors, je lui ai demandé ce qui l'avait motivé.
Tout simplement parce qu'on nous l'a proposé à la maternité au mois d'avril, quand Juliette est née. Et je trouvais que c'était intéressant, c'est l'opportunité un petit peu de suivre son évolution, parce que c'est tout nouveau, c'est une vraie nouveauté. Donc du coup, voilà, participer à une innovation comme ça, telle que celle-là, d'être un petit peu les pionniers, entre guillemets, je trouve ça très intéressant. Et puis voilà, ça nous permet nous aussi, du coup on se pose aussi des questions qu'on ne se poserait pas forcément. Là, il nous demande ce qu'on a mangé pendant la grossesse. Il nous pose plein de questions sur l'environnement de Juliette. Et du coup, nous aussi, on se pose nous-mêmes ces questions, des questions qu'on ne se serait pas posées sinon, à savoir, voilà, est-ce que j'ai mangé, est-ce que ça va influer sur elle plus tard, ce qu'on a fait pendant la grossesse, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Donc voilà, on va suivre tout ça de près et je trouve que c'est une très belle initiative.
On en parlait avec Jean-Claude Amezen en fait la semaine dernière, est-ce que nous sommes des mutants en quelque sorte? Ce qui fait, Nathalie, qu'on va étudier l'impact de l'environnement sur la santé.
De tout l'environnement, y compris l'environnement social de l'enfant, et là c'est une première aussi. Écoutez le sociologue Bertrand G, il est directeur adjoint de ELF.
Il n'y a pas d'études comme celle-là en France aujourd'hui. Et donc on va pouvoir, par exemple, essayer de voir comment l'enfant, entre sa famille, la crèche, l'école, les groupes de copains, comment il devient un jeune et un adulte ensuite. On n'a pas d'études de ce type-là actuellement. Par exemple, la réussite et l'intégration à l'école maternelle. Il y a beaucoup d'études sur l'école. Mais en quoi ce qui s'est passé dans la famille avant, ça va, ou dans chez la nounou, à la crèche, etc. Comment le fait d'avoir des frères et sœurs, ce genre de choses, comment ça va impacter ce qui se passe à l'école maternelle? Il y a un gros enjeu à comprendre ça, et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de travaux là-dessus. Vous voyez, ça, c'est un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres, parce qu'à chaque étape de la vie de l'enfant, on va pouvoir croiser les aspects économiques, sociaux, psychologiques, culturels, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie de l'enfant.
Et donc, on imagine qu'il va falloir attendre 20 ans pour connaître les premiers résultats?
Et non, 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 non. Les chercheurs ont promis, ils n'attendront pas 20 ans pour communiquer. S'ils trouvent des liens, bien avant,
oui,
des preuves de cause à effet entre l'environnement et la santé. Alors, pour plus de renseignements, là, je m'adresse aux futures mamans. Rendez-vous sur le site elfe-france.fr.
Tenez, ouvrez vos poumons, c'est pour vous, ça.
Eh oui, ça vous la reconnaissez, c'est la de Deuch, donc c'est une Deuch. Oui, et pourquoi? Parce qu'en fait, la croisière jaune a 80 années aujourd'hui et Citroën en profite pour exposer et faire essayer ses modèles, cette fois-ci de voitures électriques.
Oui, alors ce sera jeudi prochain aux Invalides hein, et jusqu'à dimanche à Paris. Vous savez que les premiers modèles de voitures électriques, c'est-à-dire 100% électriques, hein, oui. De deuxième génération ont été mis sur le marché au début de cette année. C'est le cas de la C0. Allez, Denis, oui. Vous voulez bien?
On y va.
Je vous emmène en compagnie de François Dabadie.
Alors là, vous êtes en position contact, mais vous n'avez pas actionné le démarreur. Donc c'est comme une voiture thermique sur laquelle vous avez tourné la clé. Simplement, on n'aura pas de bruit, juste un petit gong pour vous signaler que la voiture est prête à partir. La vitesse maximum de la voiture est limitée à 130 km/h. L'autonomie est de 150 km en cycle normalisé. Après, l'autonomie constatée dépend bien entendu de la façon de conduire. On a typé la voiture pour encourager l'éco-conduite et pour rendre cette distance accessible autant que faire se peut. Vous avez sous les yeux devant vous un cadran avec l'aiguille rouge là, que vous voyez qui se déplace. Vous êtes là dans la zone éco, conduite éco, économique et écologique. Et lorsque vous allez lever le pied, vous allez constater que l'aiguille descend dans le bleu, donc en dessous du zéro d'une certaine manière. C'est la recharge de la batterie, c'est-à-dire que le moteur se transforme en générateur et transforme l'énergie cinétique de la voiture par le biais du frein moteur, en électricité qui retourne dans la batterie.
Bon, alors là, on est sur le périphérique. Et évidemment, tout le bruit qu'on entend, c'est le bruit des voitures qui nous entourent.
Ah oui, parce que sinon, c'est le silence.
Silence total.
C'est incroyable. Alors, le temps de charge.
Alors, en charge normale, hein, c'est-à-dire chez vous, à une prise de courant normale, entre 6 et 9 heures pour faire le plein. Et en charge rapide, eh bien, une demi-heure pour recharger 80% de la batterie. Mais là, ce sont vraiment des bornes spéciales. Hein. Mm-hmm. Alors, le carnet de commande, parce que il faut en parler. Hein, Moi, si vous vous souvenez bien, on nous a déjà fait le coup du retour de la voiture électrique. Oui. Hein, et puis, en réalité, elle était restée au garage.
Et Renault n'est pas très bien là-dessus, d'ailleurs, en ce moment.
Et en ce moment, son usine de batterie qui est un peu en rade. Alors, ce carnet de commandes, il en est où, Jean-Pierre Duvivier?
Nous avons un peu plus de 1500 commandes sur la C0.
Qui commande?
Principalement des entreprises et des collectivités. Sur le marché français, à l'étranger, c'est un petit peu différent. Les pays nordiques sont un petit peu plus orientés vers les particuliers, puisque nous vendons à ces particuliers des voitures, par exemple, au Danemark.
À quel prix?
Le prix de la voiture est de 35 000 euros, auquel il faut déduire les 5 000 euros d'aide gouvernementale sur les voitures non polluantes.
Mais qu'est-ce qui fait que ça peut marcher aujourd'hui alors que ça n'a pas marché il y a une quinzaine d'années?
La technologie a beaucoup évolué, l'autonomie a été multipliée par deux, et puis enfin le fonctionnement de la voiture et la puissance de la voiture fait qu'on peut s'insérer dans la circulation sans aucun problème, on a des performances qui sont tout à fait acceptables. Et puis il y a un certain nombre de lois, en particulier la loi sur l'air qui s'applique sur les communes, qui peut inciter celle-ci à acheter ce type de voiture.
Alors, j'ai quand même bien entendu, 35 moins 5, ça fait quand même 30 000 euros l'affaire. Là.
Eh oui, ça coûte cher d'être écolo, Denis. Hein. Et c'est sans doute pour cela que ce sont d'abord les collectivités locales qui achètent. Une dizaine de particuliers en France hein, seulement ont commandé la voiture. À l'origine, la faible autonomie de la batterie avait compromis les ventes. Hein. Il y a une quinzaine d'années, on était à 80 km d'autonomie. On est à 150 km aujourd'hui, mais le véhicule est toujours très 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 cher quand même. Alors c'est pas sûr que ça marche, même si pour faire le plein, il en coûte moins de 2 euros.
Bon, alors, l'encombrement urbain, ça ne le remet pas véritablement en question. Et puis, le plein, c'est aussi de l'électricité nucléaire. Alors, on peut en parler parce que l'AIEA se réunit la semaine prochaine à Vienne.
Oui, dès lundi, il s'agit de se mettre d'accord sur des normes communes en matière de sûreté nucléaire après l'accident de Fukushima. Oui. On nous a dit qu'il fallait tirer les leçons de la catastrophe, mettre les réacteurs à niveau, c'est-à-dire imaginer l'inimaginable.
Allez les X-Men, on y pense.
Voilà, c'est ce que va donc tenter de faire l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et quelles sont les pistes pour imposer aux pays nucléarisés du monde des normes plus sévères? Écoutez Jacques Repussard, il est le directeur de l'IRSN, l'Institut de recherche et de sûreté nucléaire français.
Il y a deux choses. D'abord, la pratique internationale générale était de ne pas tenir compte pour accorder les autorisations d'exploiter ou bien les autorisations sur la conception des installations. On ne prenait pas en compte des événements supposés extraordinaires, totalement invraisemblables. Et deuxièmement, on a des technologies nucléaires actuelles dans les réacteurs qui existent qui sont telles qu'en cas d'accident de fusion du cœur, il y a une très grande chance qu'il y ait des relâchements de radioactivité très importants dans l'environnement. Si on prend ces deux choses ensemble, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que l'enseignement de Fukushima, c'est qu'il faut se mettre à prendre en compte aussi les causes d'accidents tout à fait invraisemblables, puisqu'elles peuvent se produire, l'expérience l'a montré. Et malheureusement, l'homme a besoin d'expérience pour progresser. Donc il faut maintenant prendre en compte dans tous les pays ces événements possibles extraordinaires pour en tirer les conséquences et modifier les installations.
Et là-dessus, il y a un consensus ?
Eh bien, en tout cas, il y a une première étape du consensus, c'est de réaliser des stress tests. Si ces stress tests sont faits de manière ouverte, transparente, scientifiquement correcte et dans un cadre de peer review international, il y aura une pression très forte parce que le public, les associations écologistes, un certain nombre de parties prenantes, voire les pays voisins, vont exiger des comptes en disant bah, « Attendez, les stress tests ont révélé qu'il y avait des scénarios possibles d'accidents et donc quelles seront les mesures qui vont être prises ?» Et donc ça, c'est tout le pari des mois qui viennent. Après l'accident de Three Mile Island et Tchernobyl, il y a eu des modifications très substantielles des réacteurs existants dans beaucoup de pays, pas dans tous, et d'ailleurs au Japon. Un certain nombre d'enseignements de Three Mile Island n'ont pas été pris en compte.
Voilà, juste pour rappeler quand même que dans les stress tests européens, les avions peuvent s'écraser dessus. C'est pas exactement comptabilisé. Alors, foutaise, répondent les écologistes.
Écoutez, Sophia Maioni de Greenpeace France.
Faut pas oublier que des règles internationales sur la sûreté, il y en a. Elles existent. Le problème, c'est qu'elles sont pas appliquées. Et pourquoi elles sont pas appliquées? Parce que l'AIEA n'est pas un régulateur. L'AIEA est un organe de promotion du nucléaire et pas un organe de contrôle du nucléaire. Et c'est bien là qu'est le vrai problème. Donc, le vrai problème n'est pas quelle nouvelle norme, mais le vrai problème est quel statut pour l'AIEA. Si les stress tests internationaux ont le même niveau que les stress tests européens, ça ne va pas amener grand-chose, puisque c'est un niveau très minimal qui a notamment été tiré vers le bas par la France et l'Angleterre. Et puis surtout, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que la Russie va refaire ses stress tests ? Est-ce que la Chine va refaire ses tests ? Globalement, nous n'y croyons pas trop.
D'accord. Et tenez, on va changer, on va respirer. Les embruns, on y va. Oui, ah oui, c'est très bien ça. On change totalement de sujet, Nathalie. Avec la chasse aux requins taupes.
Oui, mais c'est pour la bonne cause, Denis.
Ah, je suis rassurée.
C'est une chasse scientifique.
Tout va bien.
Alors, vous savez que le quota de pêche de ce requin a été fixé à zéro par l'Union européenne, hein, ce qui revient à interdire la pêche. Ça, c'est sûr. La décision a été prise en 2009. Et puis, depuis, la seule pêcherie qui ciblait cette espèce, elle est située à l'Île-Dieu. Cette pêcherie proteste parce que pour les pêcheurs, l'espèce n'est pas en danger et elle peut supporter un prélèvement, un quota de pêche. Le problème, c'est qu'on connaît très peu le requin taupe, d'où cette campagne de marquage organisée par le gouvernement français. On va tenter de poser des balises Argos sur les requins et c'est évidemment Bernard Serret.
Qui est le spécialiste des requins du Muséum national d'histoire naturelle.
Requinologue, hein, vous savez que c'est comme ça qu'il se présente. Mmh. C'est Bernard Serret qui dirige cette campagne.
Alors il faut les pêcher d'une manière douce. Il faut qu'ils soient dans le meilleur état possible, puisqu'on va leur lâcher avec la valise. Donc il faut qu'ils soient en bonne forme et qu'ils vivent le plus longtemps possible, qu'ils nous donnent le plus longtemps possible d'informations. Alors on est obligé de les pêcher quand même traditionnellement avec une palangre ou un hameçon, une ligne à un hameçon si vous voulez. Donc on l'amène le long du bord, on le prend délicatement avec une civière. S'il est petit, on le met à bord. S'il est gros, on laisse le long du bord. Et là, on l'y insère dans la nageoire dorsale ou dans la chair sur le dos, parce que là, la chair est très épaisse, une petite fléchette en plastique ou en métal, et avec un petit fil d'un monofilament au bout duquel on attache la balise satellite. Et on relâche le requin. Et cette balise, dedans, il y a une horloge qu'on peut programmer et lui dire, voilà, ben, tu te détaches à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois. Donc, on va mettre l'horloge à 1 an. Donc, pendant 1 an, cette balise va enregistrer à la fois tous les mouvements en profondeur, mais géographique, les déplacements spatiaux du requin qui est marqué. Ça ne va pas effectivement répondre directement aux besoins des pêcheurs, parce que les pêcheurs, ce qu'ils veulent, c'est savoir quand on va pouvoir rouvrir la pêche au requin taupe, puisque ce n'est pas une étude de population. Mais ça nous permettra de mieux connaître le comportement, la biologie de cette espèce, parce que paradoxalement, on pêche cette espèce depuis des décennies et on ne connaissait pas grand-chose. La population de ce requin taupe-là était assez mal connue.
Voilà, et je pense que vous avez découvert, pour pas mal d'entre vous, le requin taupe, parce qu'il n'y a pas que le requin blanc que nous connaissons. Et puis on ne va pas oublier nos petites abeilles parce que ce sont les Happy Days tout ce week-end, chère Nathalie.
Oui, mais Happy Days sans H,
ah oui,
Denis,
oui,
Happy, API pour apiculture.
Ouais.
Alors vous savez que 50 villes où sont installés des ruchers vous invitent à butiner gratuitement avec des récoltes de miel, des dégustations, des jeux, des conférences sur le rôle essentiel de l'abeille dans la pollinisation des plantes et des cultures.
Et donc elles se portent très très bien en ville, hein. Ce sont des réfugiés climatiques en ville évidemment.
C'est insensé, effectivement, ouais. Elles se portent mieux même en ville qu'à la campagne. D'ailleurs à ce propos, vous savez que le ministère de l'Agriculture vient d'autoriser pour un an le cruiser sur colza, n'est-ce pas? Alors ces autorisations sont généralement contestées, et là encore une fois par les apiculteurs et même les agriculteurs de la Confédération Paysanne. Vous savez également que régulièrement, la justice dit à l'État « vous n'auriez pas dû », sur le maïs en 2008, sur le maïs en 2009, et que là, ben, évidemment, les apiculteurs vont encore porter plainte. Et c'est des autorisations exceptionnelles d'un an qui sont généralement reconduites tous les ans, n'est-ce pas?
Exception qui dure, quoi. Oui.
Et c'est une exception qui dure.
Voilà. Tout le programme est disponible sur www.abeillesentinelle.net. Merci beaucoup, Nathalie Fontrel.
À bientôt, Denis.
Ce générique, hein, il est signé Fabrice Ravel-Chapuis. C'est donc la fin de cette émission. En remerciant Rémi Quincé et Pierrick Monsigny à la technique, Marion Lelay, notre assistante, Jean-Christophe Pinaza et Valérie Ayestaraï qui réalisaient l'émission. Les trois disques ont été choisis par Muriel Pérez. Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Je ne saurais vous convier à aller cliquer sur son site sur l'environnement aussi en temps réel, qui est tout à fait intéressant et passionnant. La semaine prochaine, ce sera une petite dernière, donc avant l'été, on retrouvera Jean-Marie Pelt. Et puis ce sera très naturaliste, hein. Je vous emmènerai à la montagne dans un jardin d'Isère, pas d'hiver mais bien d'Isère, et puis nous irons à la découverte du Pinsambreau dans le Briançonnais. Possibilité pour vous d'enregistrer cette émission pendant une semaine, de la réécouter pendant 4 semaines, et je vous retrouve avec plaisir, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux, ce sera la Tulu, mon petit loup. Allez, promotion à caractère culturel.